Des sous et des amas. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Raoul Marc Jenner.
Il ne l'a pas dit, mais il est chercheur à l'URFIG et à Oxfam, si je ne me trompe. Et il est auteur d'un livre absolument excellent qui s'appelle « Europe, la trahison des élites » aux éditions Fayard. Alors si je vous ai invité aujourd'hui, Raoul Marc Jenner, c'est parce que vous êtes, me semble-t-il, en tous les cas, un des meilleurs connaisseurs de l'OMC, la GCS, et de ce qui se trame en Europe. Or, pas en lisant les journaux pour une fois, mais en lisant plutôt ce qui passe sur les sites alternatifs, j'ai eu vent d'une directive qui s'appelle la directive, ou un projet de directive qui s'appelle la directive Bolkestein, qui a l'air de s'intéresser aux services en Europe, un petit peu que finalement comme la GCS. Alors j'aurais voulu savoir d'une part, qu'est-ce que c'est un projet de directive, parce qu'on s'y perd un petit peu dans ce qui se passe en Europe, et puis surtout, qu'est-ce que c'est qui est visé dans l'affaire, quoi.
Bien, un projet de directive, c'est un texte qui est proposé par la Commission européenne et qui est destiné à devenir une directive, c'est-à-dire, c'est le nom utilisé jusqu'à présent, pour désigner une loi européenne. C'est-à-dire une loi qui va non seulement s'appliquer au niveau des institutions européennes, mais que chaque État, donc en particulier la France, sera obligé d'intégrer dans son droit national. Alors c'est un projet parce que c'est un texte qui n'est pas encore adopté. C'est un texte qui fait partie des matières pour lesquelles la décision appartient à la fois à la Commission européenne et au Parlement européen. C'est une procédure qu'on appelle dans le jargon la procédure de codécision. Il y a une trentaine de matières pour lesquelles le Parlement européen est associé à l'élaboration des textes législatifs européens. Ah, il se trouve qu'il y a la Commission européenne, parmi cet aréopage présidé jusqu'à présent et encore pour quelques jours par Romano Prodi, un commissaire qui est chargé de ce qu'on appelle le marché intérieur, c'est-à-dire faire de l'espace européen un marché unique. Il s'appelle Fritz Bolkestein. Ah, c'est, pour ceux qui se demandent d'où il vient, ben c'est un ressortissant des Pays-Bas. C'est aussi un homme qui a un passé politique assez lourd, puisqu'il a été le président de l'Internationale libérale. C'est, pour le dire un petit peu vulgairement, un pote à Alain Madelin. Et il a déposé, le 13 janvier dernier, un projet de directive réorganisant les services dans le marché intérieur, donc dans l'espace européen. L'ampleur du projet est énorme, parce que de quoi parle-t-on quand on parle de service? J'invite les auditeurs à simplement se rappeler ce qu'ils ont fait au moment où ils se sont éveillés ce matin, c'est-à-dire qu'ils ont éclairé leur chambre et ils ont fait appel à une activité de service. Puis ils sont sans doute passés par la salle de bain, ils ont ouvert un robinet, ils ont fait appel à la distribution d'eau qui est une autre activité de service. Ils ont sans doute après, en prenant leur petit déjeuner, branché la radio pour prendre les nouvelles, c'est une autre activité de service puisque l'audiovisuel, la radio, la communication, ce sont des activités de service. Puis s'ils ont des enfants, ils les ont conduits à l'école, en prenant le bus, eh bien ils ont pris les transports, c'est une activité de service, l'école c'est une activité de service. Si après ça, le père ou la mère est passé chez le médecin, il a fait appelle aussi à une activité de service, puisque la délivrance des soins de santé, c'est une activité de service. Et on peut continuer comme ça jusqu'au moment où on va se replonger en dessous de ces couvertures et éteindre la lumière et se rendre compte que finalement, tout au long de notre vie quotidienne, on fait tout le temps appel à des activités de service. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on prétend avoir des lois, des règlements sur les activités de service, ça signifie qu'on prétend avoir des lois, des règlements sur notre façon de vivre. Or, on a déjà, au niveau mondial, dans le cadre de l'Organisation mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce, un accord qui s'appelle AGCS, Accord général sur le commerce des services. Et en fait, ce que M. Bolkestein se propose de faire, c'est de l'étendre à l'espace européen. Vous me direz, à quoi bon, puisque de toute façon, les accords de l'OMC sont obligatoires, et donc sont aussi obligatoires pour les États européens. Mais il y a une raison à cela. C'est que la Commission européenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et je ne crois pas que celle qui va venir va changer dans le bon sens en tout cas, elle est profondément ce qu'on dit, ce qu'on appelle être néolibérale, c'est-à-dire avoir une vision de la société où les pouvoirs publics jouent un rôle minimum. Et donc, en fait, l'intention profonde de cette directive, de ce projet de directive Bolkestein, c'est d'appliquer la GCS, mais en l'aggravant, en allant plus loin que la GCS, en allant plus loin dans la mesure où tous les services sont concernés, sans que chacun des États membres, si la directive est adoptée, ait la possibilité de dire « Ah non, moi je ne veux pas qu'on touche par exemple à la santé, à l'éducation, à la culture ». Une fois que cette directive-là est adoptée, les États membres auront perdu toute capacité de décision en matière de services. C'est donc énorme. Alors que dans le cadre de la GCS, ils ont encore le pouvoir de dire « Oui, on est disposé à libéraliser tel service, mais tel autre, on ne veut pas ». Avec la directive Bolkestein, si elle est adoptée, ce sera la Commission européenne qui décidera.
Mais on pourrait dire que c'est une nécessité finalement, dans le sens où croire encore dans l'intérêt des nations, du fait qu'on préfère que ce soit des entreprises françaises, par exemple, qui s'occupent, je sais pas, de la radio, du bus, etc. C'est obsolète complètement ce genre de pensée. Puisque c'est un peu comme si le tribut gauloise, dans le temps... voilà, les tribus gauloises, ils se sont battus entre eux, finalement, ils se sont fait avoir par les Romains. De la même façon, il faut qu'on réussisse à faire un grand espace, tous ensemble, un grand espace européen, en balayant complètement tout ce qui peut être de l'ordre du national. Ça n'a strictement aucun intérêt.
On n'est pas dans ce débat-là. On n'est pas dans le débat entre, il ne faut plus que les États-nations jouent un rôle, parce que nous avons besoin d'un effet de taille. On est dans un tout autre débat. La question qui est posée à travers cette directive, comme à travers beaucoup d'autres initiatives de la Commission européenne, comme à travers d'ailleurs le projet de constitution sur lequel les Françaises et les Français sont amenés à se prononcer l'an prochain, c'est quel est le rôle que l'on entend encore aujourd'hui réservé aux pouvoirs publics, qui peuvent très bien être européens. Le problème n'est pas de savoir si les pouvoirs publics agissent seulement au niveau national ou s'ils agissent ou s'ils n'existent plus parce que tout est transféré à l'Europe et qu'au niveau européen il n'y a pas de service public. Le problème, c'est vraiment la question fondamentale. Dans le modèle de société que nous essayons de construire depuis à peu près 200 ans, quel est le rôle que l'on attribue aux autorités publiques, notamment pour que un certain nombre de droits dont on a reconnu qu'ils étaient importants et que tous devaient être égaux devant ces droits, et je pense à ce qu'on appelle un peu vulgairement les droits collectifs, c'est-à-dire le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au travail, le droit au logement, le droit à un minimum d'existence, le droit à un salaire minimum garanti, le droit à une indemnité de chômage, le droit à une pension de retraite. Ces droits-là, pour pouvoir les exercer, parce que c'est finalement ça qui est important. Il ne s'agit pas de mettre sur un bout de papier, quel que soit le nom qu'on donne à ce bout de papier, une série de droits. Comme disait Jean Jaurès il y a à peu près 100 ans, au moment où on fêtait le 100e anniversaire de la Révolution française, c'est important d'avoir des droits. C'est encore plus important de créer les conditions qui permettent de les exercer. Or, jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de mieux que les services publics pour pouvoir exercer ses droits. Et c'est ça qui est en cause dans le débat sur la proposition de directive Bolkestein, comme sur la Constitution européenne, c'est quel est le rôle dans la société qu'on veut pour l'avenir, pour aujourd'hui comme pour demain, quel est le rôle des pouvoirs publics, et dans quelle mesure les pouvoirs publics ont-ils une obligation de service dans un certain nombre de domaines. La proposition Bolkestein répond, les pouvoirs publics n'ont plus à s'en occuper, il faut laisser le privé s'en occuper. Ce qui veut dire ben, qu'un certain nombre de services seront accessibles à ceux qui peuvent se les payer. Ça, c'est le modèle de société américain. Libre aux États-Unis et à ses habitants de choisir ce modèle de société-là, mais en tout cas, depuis 200 ans, c'est pas celui-là qu'on a essayé de construire. On s'est énormément battu parce que ça ne nous fut pas accordé. Il a fallu l'arracher, justement pour que ces droits soient reconnus et pour qu'ils puissent être exercés. Et nous vivons aujourd'hui sur un acquis formidable qui, en France, mais ce n'est pas une exclusivité française, et je déplore beaucoup quand mes amis français disent c'est l'exception française, ce sont les services publics à la française, c'est totalement faux. Les services publics à la française, ils existent au moins dans les 6 pays fondateurs de l'Union européenne, c'est-à-dire outre la France, l'Allemagne, l'Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. C'est le même modèle. Et c'est ça qui est en cause, c'est de savoir si on confère au pouvoir public, et pourquoi pas au pouvoir public européen, aux institutions européennes, une capacité d'agir de telle sorte que les services soient accessibles à tous. La proposition Bolkestein répond par la négative, elle nie l'obligation de service et elle dit c'est au marché à assurer le service et la compétition, la concurrence va profiter aux consommateurs puisque tout le monde, on n'est plus des patients quand on va à l'hôpital, on devient un client, on n'est plus un étudiant ou un élève quand on va à l'université ou à l'école, on devient un bénéficiaire de service. En fait, c'est vraiment ce qu'on appelle la marchandisation des rapports sociaux.
Des sous et des hommes, toujours en compagnie de Raoul-Marc Génard, donc qui est docteur en sciences politiques, c'est ce qui a marqué derrière son livre, diplômé des universités belges et françaises et chercheur à l'URFIG et à Oxfam Belgique. Vous nous parlez donc de la directive Bolkestein. J'étais en train de lire un papier de Michel Husson qui l'appelle la directive Frankenstein. C'est pas très rassurant cette affaire, mais j'ai pas bien compris en quoi exactement elle consiste. Qu'est-ce qui nous concocte
Elle est à l'image de la GCS, de l'accord général sur le commerce des services, qui est déjà un accord terriblement dévastateur pour ceux qui tiennent à ce que les pouvoirs publics, communaux, départementaux, régionaux ou nationaux, continuent à être fournisseurs de services, afin d'assurer l'égalité des droits. Donc la GCS, comme la GCS, la proposition Bolkestein a une définition extrêmement générale des services, c'est tous les secteurs de tous les services. Donc on ne protège pas de son application, par exemple les services publics, on ne protège pas de son application l'éducation, la santé, les soins de santé, ça vise tout le monde. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon des textes européens une directive horizontale qui couvre tous les secteurs. Première chose. Deuxième chose, elle cible, comme la GCS, les modes de fourniture, qu'il s'agisse de fournir un service à l'étranger, qu'il s'agisse pour les consommateurs de services de consommer dans un autre pays, qu'il s'agisse pour un prestataire de services, un fournisseur de services, d'investir à l'étranger, ou qu'il s'agisse, dans les activités de services, d'organiser la mobilité des personnes physiques, du personnel employé. C'est la même chose que dans la GCS. Mais alors, il y a un élément d'aggravation. Cet élément d'aggravation, on pourrait dire que par rapport au mode 4 de la GCS sur la mobilité des personnes physiques, c'est un mode 4 bis, qui est un peu l'interface, c'est le principe du pays d'origine. Le principe du pays d'origine, c'est... plutôt que de l'expliquer en théorie, je vais essayer de donner un exemple concret. Mais il faut avoir à l'esprit une chose. Et on sait qu'en politique, rien ne relève du hasard ou des circonstances. Nous sommes depuis 5 mois à 25 dans l'Union européenne, nous ne sommes plus à 15. Ceux qui nous ont rejoints, et en particulier les 8 qui faisaient partie de ce qu'on appelait l'Europe de l'Est, constituent une zone où il y a peu de lois sociales, peu de lois fiscales, peu de lois environnementales. En fait, ces pays, après l'effondrement du système soviétique, ces pays ont été reformatés, si je peux utiliser le mot, par des experts du Fonds monétaire international et par des experts de la Commission européenne, dans un sens très néolibéral, c'est-à-dire l'état minimum. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une Europe avec des disparités énormes. une partie de l'Europe, l'Europe des 15 en fait, où il y a des législations fiscales, des législations sociales, des législations environnementales, et une partie de l'Europe où il n'y en a pas. Et ce n'est pas par hasard que cette directive arrive juste à ce moment-là. Parce que le principe du pays d'origine n'a de sens que s'il y a des disparités. C'est quoi le principe du pays d'origine? Eh bien, pour prendre un exemple concret, imaginons que les propriétaires d'une clinique privée qui se trouverait ici dans le 11e arrondissement décident de se rendre, prenons par exemple la Pologne, à Varsovie. Imaginons, je suis sûr qu'il y a une rue Chopin à Varsovie, imaginons qu'ils aillent rue Chopin où ils trouvent au numéro 7, au premier étage à droite, un appartement à louer. Eh bien, si la directive est adoptée, le numéro 7, premier étage à droite de la rue Chopin à Varsovie, deviendra le siège social de la clinique qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris. Enfin, et s'il le décide. Mais s'il le décide, s'ils disent désormais notre siège social est en Pologne, pour tout le personnel de la clinique, ici, à Paris, dans le 11e, pour les salaires, pour la législation sociale, pour le chômage, pour la pension de retraite, ce sera la loi polonaise. Et pire, pour les patients aussi, en matière de couverture de soins de santé, ce sera la loi polonaise. En fait, comme le disait un ami syndicaliste, le principe du pays d'origine, c'est un petit peu légaliser le pavillon de complaisance pour les employeurs. C'est un mécanisme qui permet aux employeurs de profiter de la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui, avec une Europe à deux vitesses, et d'aller là où il y a le moins exigeant sur le plan fiscal, sur le plan social, sur le plan environnemental, mais ce qui démantèle complètement les systèmes existants là où ils existent, c'est-à-dire dans ce qu'on appelait l'Europe occidentale jusqu'il y a quelques années. C'est d'ailleurs une proposition, et beaucoup d'experts le font remarquer, qui va créer une immense insécurité juridique. S'il y a un consensus, même des experts qui sont, je vais dire, libéraux ou néolibéraux, reconnaissent que cette directive, si elle est à adoptée et appliquée telle qu'elle est, va créer une formidable insécurité juridique et va permettre le démantèlement des législations européennes existantes, parce qu'il y a des législations qui protègent notamment le détachement des travailleurs, qui créent des obligations générales en matière de droit privé. Mais elles ont été faites dans un temps où le moteur de la construction européenne, c'était l'harmonisation. Aujourd'hui, l'harmonisation n'intéresse plus ceux qui sont les véritables décideurs qui se trouvent derrière les politiques, c'est-à-dire les hommes d'affaires, le MEDEF, mais au niveau européen, le MEDEF, ça s'appelle l'UNICE. Ça ne l'intéresse plus d'harmoniser, ça l'intéresse de profiter de l'existence d'un espace dans l'Europe de non-droit. C'est pour ça que la Commission européenne, qui n'est finalement que le bras politique des milieux d'affaires, fait cette proposition.
Enfin, le bras politique des milieux d'affaires, j'arrive quand même pas à comprendre comment des parlementaires pourraient voter ça. Si effectivement ça amène le démantèlement de la législation européenne en matière de droit social finalement, droit du travail, je ne vois pas.
Je serais un peu moins étonné que vous, dans la mesure où je me souviens avoir lu il y a quelques semaines dans le journal Le Monde un personnage qui fait partie du paysage politique français et qu'on ne considère pas comme marginal. Je veux parler d'Alain Madelin, qui disait qu'en Europe on a encore un système soviétique et qui ne voit qu'une chose, et il n'est pas tout seul, et on en retrouve dans le conseil de la ville de Paris des amis d'Alain Madelin. Monsieur Raffarin, si je ne m'abuse, appartient à la même famille politique qu'Alain Madelin. Ce sont les libéraux, c'est démocratie libérale. Ces gens-là construisent une Europe qui de plus en plus nous conduit vers le modèle américain, le modèle du chacun pour soi. Et la directive Bolkestein, ben, elle démantèle ce qu'il faut démanteler pour arriver arriver à une société du chacun pour soi. Alors c'est sûr que à côté des gens qui sont partisans de cette directive par conviction idéologique, il y en a qui lui sont totalement opposés. Et puis il y a un marais, si vous voulez, de gens qui hésitent, qui se demandent si on ne pourrait pas l'accommoder un petit peu à la marge, d'autres qui voudraient la modifier un peu plus fort pour ménager des transitions. On va avoir au Parlement européen dans les mois qui viennent une formidable bataille d'amendements sur cette directive.
Et elle devrait finalement peut-être être adoptée, mais ça va nous tomber dessus quand ?
Mais comme on pense, le travail législatif proprement dit commence en janvier, le Parlement pourrait adopter en première lecture le texte en juin. Mais je pense qu'en tout état de cause, cette directive n'entrera pas en vigueur, quel que soit le contenu du texte. Il est modifié peu ou beaucoup, qu'elle n'entrera pas en vigueur avant 2006, peut-être même 2007, surtout si la bataille d'amendements est rude et si on va vers un conflit entre le Parlement et la Commission européenne.
Ce qui se passe en Europe est un petit peu opaque, on en reparlera la semaine prochaine puisque vous reviendrez. Mais est-ce qu'on peut éventuellement avoir une action, nous, le simple citoyen, écrire à nos députés européens ? Il y a quelque chose à faire ou on assiste au désastre ?
Il y a beaucoup à faire et on ne doit pas être témoin passif. Mais la démocratie, c'est précisément ça, et je crains que depuis une ou deux décennies, beaucoup l'oublient. La démocratie a besoin de citoyens conscients, agissants et actifs. On n'a pas besoin de réformes institutionnelles pour interpeller nos élus nationaux, pour interpeller nos élus locaux et pour interpeller les membres français du Parlement européen. On peut leur téléphoner, on peut leur écrire, on peut aller les voir et leur demander « Mais que comptez-vous faire avec cette proposition qui va bouleverser notre modèle de société que nous voulons conserver, que nous voulons perfectionner, mais que nous ne voulons surtout pas supprimer ?» Personne n'est interdit de faire cet acte citoyen et il me semble urgent que chacun le fasse.
Et donc c'était Des souhaits des hommes avec Raoul-Marc Génard qui revient donc la semaine prochaine pour nous parler de l'Europe, justement peut-être du déficit démocratique de l'Europe. En tout cas, je prends le temps de vous donner le site sur lequel vous pourrez trouver l'ensemble du document de la directive de Bolkestein. Vous pouvez le trouver sur le site qui s'appelle Europa, qui est le site officiel de la Commission européenne, je crois, si je ne m'abuse. Vous pourrez aussi trouver des renseignements sur le site de l'URFIG, dans le moteur de recherche, vous faites URFIG. C'est le site de Raoul-Marc Génard dans lequel on trouve des documents extraordinairement bien documentés. Voilà, donc à la semaine prochaine avec Raoul-Marc Génard à nouveau.